La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les séries ont-elles leur loi ? Le 22 septembre 1926, il y a pile 98 ans, un certain Paul Kammerer, biologiste de son état, se tirait une balle dans la tête dans une petite ville appelée Puchberg, à une soixantaine de kilomètres de Vienne. Il avait 46 ans. Partisan de l'hérédité des caractères acquis, ce savant qu'on pourrait qualifier de maudit avait suscité d'intenses polémiques dans le monde académique. Il s'était en outre intéressé de façon systématique aux coïncidences, se demandant si celles-ci sont dues au hasard ou bien sont régies par des lois qui nous échappent. Après tout, quand on dit « jamais 203 », « l'histoire se répète » ou « un malheur n'arrive jamais seul », à quoi se réfère-t-on exactement ? En 1919, Paul Kammerer publia à ce sujet un livre devenu mythique, intitulé « La loi des séries », qui vient d'être publié en français sous le titre « Le grand livre des coïncidences ». Que raconte ce livre souvent cité mais rarement lu ? Et qui était vraiment son auteur, l'étonnant Paul Kammerer ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Lavergne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et éditeur, et traducteur en l'occurrence avec Raymond Clarinard, du grand livre des coïncidences de Paul Kammerer, qui vient de paraître aux éditions Aux Feuillantines. C'était en avril 2024, je crois.
C'était en avril de cette année, oui.
Et Paul Lavergne, vous êtes le fondateur de cette collection, qui s'appelle Dans la bibliothèque 2. Alors, quelle est l'idée et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre Le grand livre des coïncidences.
Alors le concept de la collection est très simple. Je suis un jeune éditeur. Enfin, ma maison d'édition est jeune, elle est plus jeune que moi. Mais il me fallait, pour me lancer sur un marché, comme on dit, un petit peu concurrentiel, trouver une ligne éditoriale un peu originale. Donc plutôt que de faire des livres en plus qui risquaient d'être des livres en trop, je me suis attaché à trouver dans la bibliographie anglaise, allemande, des ouvrages qui avaient la faveur de grands écrivains et qui ont échappé au radar des éditeurs français. Donc j'en ai déjà publié quelques-uns. Le premier, c'est un petit roman très amusant, qui est un livre de chevet de Nabokov, qui s'appelle « Qui a écrit Trixie ?», un petit roman un peu à la manière de Woodhouse, qui est totalement irrésistible.
Par un certain William Kane.
Par un certain William Kane, qui a totalement disparu des radars. Même en Angleterre, on ne le republie pas. Et à mon avis, c'est un auteur supérieur à Woodhouse, beaucoup plus incisif dans sa critique de la société anglaise. Le deuxième, c'était un livre très amusant, qui était le livre de chevet de Dickens, qui s'appelle « Le grand livre des avares », d'où Dickens a pris plusieurs portraits qui lui ont servi, dans un certain nombre de ses romans, à faire des portraits d'avares, voilà. Et donc le troisième volume, c'est un livre je veux pas dire qu'il me hante, mais je suis tombé sur Kammerer par hasard. C'est amusant parce que Kammerer justement réfute le hasard. Je suis tombé par hasard Kammerer parce que je faisais justement je prenais des notes en vue d'un roman sur le hasard qui est écrit mais qui n'a pas été publié. Et quand on fait des recherches un peu approfondies sur le hasard, fatalement, au bout d'un moment, on tombe sur le nom de celui qui niait la plupart du temps l'effet du hasard dans ce qu'on appelle les coïncidences de la vie quotidienne. Voilà, donc c'est parti de là. J'ai découvert que ce livre n'avait jamais été réimprimé, même en Autriche ou en langue allemande. Il est totalement inconnu dans aucune langue, et pourtant il a intéressé pas mal de gens sérieux, comme Albert Einstein, qui a trouvé que ce livre était tout sauf absurde. Ouais. J'ai un bon prescripteur. Et puis surtout Arthur Koestler. Hein, vous venez de signaler que Kammerer s'était suicidé. Parce qu'on l'avait accusé d'avoir falsifié à l'encre de Chine des spécimens de crapauds accoucheurs qui lui avaient servi à démontrer l'hérédité des caractères acquis. Il était dans une optique lamarckienne. Pas exclusivement d'ailleurs, il faudrait pas le réduire à ça. Et Koestler a montré que ce n'était pas lui qui avait piqué à l'encre de Chine les papates de ces crapauds, mais qu'il avait été victime d'une conspiration provenant de l'université de Vienne, qui était à l'époque très réactionnaire.
Mais on va y revenir, mais en fait ce livre était dans la bibliothèque de Koestler. D'où sa place.
Alors,
dans votre collection.
Koestler était viennois, comme il explique d'ailleurs au début d'un livre qu'il a fait pour réhabiliter Kammerer, qui s'appelle L'étreinte du crapaud, qui est un très beau livre. On pourrait le comparer, toute proportion gardée, au Calas de Voltaire, parce que il s'est dit ce type a été victime d'une conspiration ignoble, et Koestler, vous savez, était témoin des procès de Moscou, donc il savait ce que c'était.
Le zéro et l'infini.
Voilà, et il savait ce que c'était qu'un mauvais procès et un procès truqué. Et donc il s'est attaché à montrer que Koestler n'avait pas falsifié ses spécimens. qu'il avait été victime d'une conspiration de l'université de Vienne. Et il y a un autre chercheur un peu plus tard, c'est important de le dire, qui s'appelle Klaus Tachwer, qui a écrit dans les années 2000 une biographie peut-être un peu plus scientifique que celle de Koestler, moins passionnelle, où il démontre que ce complot avait une forte coloration antisémite à une époque où l'université de Vienne était dominée par des castes de professeurs ultranationalistes, antisémites.
Dont certains deviendront d'authentiques nazis.
Dont certains deviendront des nazis, absolument. Ouais, qui étaient déjà un peu nazis dans leurs fibres. Et donc, cette conspiration visait à anéantir la réputation d'un organisme très important qui s'appelait le BVA, qui était un institut de biologie concurrent de l'université de Vienne, fondé par de grands esprits humaniste et scientifique, notamment Karl Pschibram, qu'on vient de redécouvrir.
Donc c'est pas Paul Kammerer lui-même qui était visé, mais l'institut dans lequel il travaillait.
Voilà, c'est des principes. Pourquoi ? Parce que Kammerer, à l'époque, on va peut-être en reparler, n'était plus rien, il était déconsidéré, à la fois par ses théories, par un burn-out qu'il avait fait récemment, par des échecs amoureux à répétition, parce que sa vie aussi est un roman sentimental assez ahurissant.
Oui, vous avez écrit en fait, Hervé Lavergne, en même temps que vous republiez ce livre de Kammerer, vous avez écrit une biographie de
une petite biographie
de Paul Kammerer.
Parce qu'on peut pas comprendre ce livre sans savoir ce qu'a été la vie de Kammerer.
Mais cet homme n'est pas simple.
Et quand
vous dites qu'il s'est suicidé parce qu'il a été accusé de fraude, en fait, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs hypothèses.
Alors, moi, mon hypothèse, c'est qu'il s'est vraiment suicidé. Il y a eu, effectivement, des théories selon lesquelles il aurait été assassiné parce que aurait publié un journal qu'il s'était tiré une balle dans la tempe droite de la main gauche, qui paraît difficile. Mais en fait, non, Koestler a montré qu'il s'était vraiment suicidé et que son suicide ne résulte pas que de la conspiration, mais de son burn-out, de ses échecs amoureux. Enfin, il y a un moment où trop, c'est trop.
Est-ce que c'est un chercheur dont on pourrait dire que certains de ses travaux le mettaient un peu en avant sur son temps ?
Alors, effectivement, si Koestler s'est intéressé à Kammerer, c'est qu'il a vu en lui un incompris, quelqu'un qui explorait des voies totalement nouvelles, notamment en biologie, à une époque où la biologie connaissait à Vienne et en Autriche un fort engouement avant les théories génétiques. Et donc, je parlais de Pschibram, qui était le mentor et celui qui a embauché Kammerer au BVA. Pschibram, par exemple, travaillait sur la façon dont certaines crevettes reconstituent leur pâte une fois coupée. Il s'intéressait, non pas en généticien, parce que ça n'existait pas, mais d'une façon très heuristique, en montrant les phénomènes physiques et chimiques qui avaient lieu à ce moment-là. C'est une pensée qui vient d'être découverte par un chercheur de l'université de Nancy, qui vient de publier un livre sur lui. Voilà. Et d'autre part, effectivement, Kammerer avait tout pour déplaire à ce moment-là, parce que, outre ses théories en matière de lamarckisme, qui était un peu... Alors, à l'époque, lamarckisme et darwinisme n'étaient pas encore totalement fixés.
Mais Darwin avait quand même gagné.
Mais Darwin était en train de gagner, disons.
Est-ce qu'on peut rappeler, d'ailleurs, Hervé Lavergne, en grosso modo, en quoi consiste la différence entre Darwin et Lamarck ?
Alors, c'est difficile de résumer en quelques phrases, mais disons que dans l'évolution des espèces selon Lamarck, il y a comme une volonté adaptative qui fait que, par exemple, la girafe, hein, puisque c'est l'exemple le plus souvent donné, va, au fil des générations, allonger son cou pour atteindre les frondaisons supérieures des arbres.
Donc, il y a une sorte de projet en marche, de progrès, on pourrait dire.
Voilà, il y a une sorte de téléologie, il y a une sorte de volonté sous-jacente adaptative.
Et chaque génération profite des acquis des générations précédentes.
Voilà, et chaque génération profite des acquis, alors que Darwin a établi, et définitivement, je pense, que non, il y a, au fil des générations, des mutations qui se produisent, et seules les mutations qui dotent les nouveaux individus d'un avantage survivent. Voilà. Et donc le darwinisme, c'est donc à la fois une théorie de l'évolution et c'est aussi la fameuse théorie de la lutte pour la vie, de la sélection des espèces, qui a donné lieu, même en Autriche à l'époque, à plein de à toutes sortes de dévoiements, hein, notamment l'eugénisme, puisque par définition, l'amélioration de l'espèce, c'est dès l'origine un projet darwinien, puisque vous savez que Darwin a pris comme modèle le modèle de l'amélioration de l'espèce à travers le modèle de la ferme. Hein, donc il y a eu tout de suite un dévoiement idéologique. Camus n'était pas du tout là-dedans, il n'était pas du tout intransigeant d'ailleurs, il reconnaissait la validité de certaines théories de Darwin, mais il pensait que Lamarck rendait davantage compte de la vérité l'hérédité des caractères acquis, et il a essayé de le prouver avec des expériences extrêmement amusantes sur les salamandres et le crapaud accoucheur.
Alors, est-ce qu'on peut les rappeler ces... Parce qu'il a fait preuve d'invention, en fait.
C'était quelqu'un d'extrêmement inventif. Alors, il faut se replacer dans le contexte. Donc, Vienne, il vivait dans la Vienne de Stefan Zweig, une espèce de bouillonnement intellectuel, artistique. Mais pas seulement, il y avait un intérêt passionné pour la biologie dans la Vienne du début du XXe siècle, et des grandes familles bourgeoises, dont celle de Camus, étaient souvent équipées de vivariums où on élevait toutes sortes de bestioles qui rampaient, sautaient, croissaient, etc. Et donc Camus a vécu là-dedans. Il est devenu très tôt très habile dans la manipulation au sens dans le bon sens des espèces vivantes, à l'antithèse de l'université de Vienne qui ne pratiquait la biologie de façon descriptive avec des animaux plongés dans le formol. Et donc très tôt, il a essayé de montrer les hypothèses de Lamarck. Alors, il y a d'abord les salamandres, ces fameuses expériences sur les salamandres qui sont de deux types. D'abord, il a voulu montrer que en changeant les milieux de certaines salamandres, on changeait leurs mœurs ou leurs apparences. Par exemple, leurs mœurs reproductives ou leur apparence. Par exemple, il prend une espèce de salamandre qui a deux variétés, une variété qui vit dans des régions sèches et une variété qui vit dans des régions humides. La première est vivipare, l'autre ovovivipare, à moins que ce ne soit l'inverse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé les milieux de ces deux espèces, et il a observé que les salamandres vivipares devenaient ovovivipares, et vice-versa.
Mais personne avant lui n'avait eu l'idée de faire ce genre d'inversion.
Et personne n'avait eu cette idée, et parce que ça demande un savoir-faire technique extraordinaire, et on a appelé Camus un vrai sorcier, parce que il arrivait à faire ce que personne d'autre n'a su faire depuis lui, et donc on l'a accusé de tricherie, faute d'avoir pu reproduire ses expériences, puisque c'est que dans science, toute science expérimentale repose sur l'idée qu'on peut, dans les mêmes conditions de température et de pression, reproduire. Personne n'a jamais réussi, donc on l'a facilement accusé de tricherie. Or, il a montré que ces fameuses salamandres, non seulement acquéraient des caractéristiques différentes en termes de reproduction, mais il a aussi poursuivi ses expériences en mettant des salamandres jaunes sur un substrat noir et vice-versa. Il a observé qu'au fil des générations, la salamandre jaune, noire, posée sur un substrat jaune, sa pigmentation devenait petit à petit jaune au point de s'unifier totalement. Mais il fallait une patience infinie, parce que la salamandre ne devenant nubile qu'au bout de 3 à 4 ans, il fallait 15-20 ans, il l'a fait, pour suivre des cohortes de salamandres et leurs petits. Donc ça, c'est l'histoire des salamandres, ça a beaucoup troublé communauté scientifique, mais il était quand même sous l'autorité du BVA et de Psyram, qui n'étaient pas du tout en roue libre, donc toutes ces expériences étaient contrôlées, bien que personne n'ait pu les reproduire. Et d'autre part, Camus s'est intéressé, alors ça c'est plus amusant, au crapaud accoucheur.
Drôle de nom.
Ah oui, l'Halite obstétricans, pour donner son nom complet, qui est pareil que pour la salamandre, qui connaît deux variétés, une variété qui vit en milieu sec, une variété qui vit en milieu humide. Et la variété qui vit en milieu humide, les mâles sont pourvus de ce qu'on appelle des rugosités nuptiales, ou brosses copulatrices, qui permettent à monsieur, quand il s'accouple avec madame, de bien la maintenir sous son étreinte. Sinon,
c'est
comme une savonnette dans un lavabo, wow. ça glisserait. Voilà. Par contre, la variété terrestre du crapaud accoucheur n'a pas besoin de ces rugosités. Donc que fait l'ami Camus? Il prend des halites vivant en milieu terrestre.
Les halites, c'est le nom savant pour les crapauds accoucheurs.
Les crapauds accoucheurs, l'Halite obstétricans. Et donc, il prend les halites de milieu terrestre, il augmente la température de leur terrarium, il met de l'eau à côté, et donc les bestioles incommodées vont prendre l'habitude de passer beaucoup de temps dans l'eau et de s'y accoupler. Et il le dit, d'ailleurs c'est un texte qu'on pourrait citer, il dit qu'à la quatrième génération, et après beaucoup d'échecs, il a vu apparaître sur la partie antérieure des doigts d'une patte de ses halites une rugosité nuptiale qui normalement n'appartient qu'à l'espèce qui vit en milieu humide.
Je ne sais pas ce qu'il en est du résultat, Hervé Lavelle, mais le protocole est génial.
C'était quelqu'un d'extrêmement inventif et puis extrêmement habile. Essayez de faire reproduire chez vous des crapauds.
Ça serait mal vu chez moi.
C'était assez mal vu chez lui parce qu'il avait transformé l'appartement familial en
vivarium.
En vivarium géant. Et d'après Koestler, ça sentait assez mauvais. Donc il a réussi. Ses expériences ont été validées par son professeur, le professeur Psibram, mais tout de suite ça a donné lieu à plein de contestations, notamment de la part d'un professeur qui s'appelait Bateson, qui est un plus grand savant que Camus. C'est là le paradoxe, puisque c'est l'inventeur de la génétique, Bateson.
Du nom génétique,
ouais, oui. Ouais.
Et pas de la génétique en soi.
De la génétique en soi, non, mais du nom. Et puis ouais. Il avait, alors, le paradoxe de Bateson, c'est qu'il avait commencé par être Lamarckien.
Donc c'était un converti, c'est les pires.
C'est un converti, mais malgré lui, parce qu'il avait cherché, comme Kammerer, à prouver l'hérédité des caractères acquis en traquant des bestioles improbables dans le lac Baïkal. Et il n'avait pas ramené de preuves de l'hérédité des caractères acquis, mais de sévères maladies amibiennes qui font que il a abjuré le lamarckisme. Et son fils, son fils qui a rencontré Koestler quand il a écrit son livre de réhabilitation lui dit que chaque fois qu'on parlait de Lamarck,
ah oui, la table tremblait,
Benson, voilà, les verres tremblaient sur la table. Donc il s'est converti au darwinisme un peu malgré lui, et donc il n'a eu de cesse de persécuter ce pauvre Kammerer. Et au lieu d'avoir l'honnêteté de dire, comme tout bon scientifique, j'observe que Kammerer a réussi des expériences mais je ne crois pas que ça prouve le lamarckisme, il a dit « Le lamarckisme n'existe pas, donc les expériences sont truquées. » Ce qui n'est pas une marque d'un esprit très scientifique et très rigoureux.
Vous avez parlé de brosses copulatrices.
Alors les brosses copulatrices, c'est ça, c'est ce qui
permet... C'est l'autre nom de ce que vous avez appelé tout à l'heure.
Oui, on peut utiliser indépendamment l'un de l'autre.
Et alors c'est à ce moment-là qu'a commencé une attaque contre lui qui n'était pas d'avoir...
Alors c'est à partir de ce moment-là, donc Kammerer, il voyait la preuve de l'hérédité des caractères. Il y a eu plein d'autres expériences aussi sur d'autres bestioles, ou dans Frégras, le tunicier des mers, enfin d'autres bestioles dont il semble qu'il a effectivement réussi à modifier le phénotype. Contrairement à ce qu'on sait aujourd'hui de la génétique, et a observé sur de plusieurs générations la réplication de ces modifications. Donc tout ça scandalisait le monde scientifique, qui penchait de plus en plus en faveur de Darwin, mais Kammerer courageusement a continué à faire ses expériences, à montrer ses spécimens, notamment dans un congrès à Glasgow, qui a convaincu beaucoup de gens que Kammerer avait mis le doigt sur quelque chose. Beaucoup de gens ne pensaient pas que c'était la preuve du lamarckisme, mais on se doute aujourd'hui, il y a pas mal de savants qui se sont intéressés à Kammerer. Il y a Stephen Jay Gould, qui a jamais mis en cause l'authenticité des transformations, mais lui l'attribuait à une pression sélective faite par Kammerer sur ses spécimens. Donc, en fait, Kammerer aurait malgré lui démontré aussi Darwin.
Est-ce qu'on peut dire, Hervé Lavergne, que les effets que Kammerer met en évidence relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique?
Voilà, alors aujourd'hui, il y a des équipes très sérieuses, il y en a une au Chili sous la direction d'un professeur Vargas, qui sont en train de reconstituer les expériences de Kammerer, et il semblerait que Kammerer ait mis le doigt sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire le fait que certains gènes peuvent être activés par le milieu, un peu comme un interrupteur électrique. Est-ce que c'est vrai? C'est en cours. C'est des expériences très longues à mener, puisque il faut des générations de crapauds ou de salamandres pour le prouver. Mais il semblerait qu'effectivement, Kammerer n'ait pas réussi à prouver le lamarckisme, mais ait mis le doigt sur quelque chose, ce qui n'est pas déshonorant.
Hervé Lavelle, il va falloir qu'on parle de ce livre, nouvelle série, quand même le sujet de l'émission, mais
avant, c'est indispensable.
Oui, il faut. Et la fraude dont il était accusé, elle consiste en quoi? Alors, on sait aujourd'hui que c'était pas une fraude du tout.
Non, alors, après la guerre, son laboratoire a été détruit et il n'a gardé qu'un spécimen transformé de crapaud accoucheur, le célèbre spécimen F4. Et
vous présentez une photo dans le livre.
Voilà, qu'il a montré un peu partout. Et à la suite d'une conspiration, on a prétendu que Camoir avait lui-même fabriqué les rugosités nuptiales avec de l'encre de Chine. C'est faux.
Il avait peint le crapaud.
Il avait, voilà, il avait fait une supercherie. Alors, Koestler a démontré d'une façon extraordinairement scientifique.
Vous dites que c'est une idée de génie qu'a eu Koestler.
Koestler a eu une idée de génie. Il a tout simplement injecté par des scientifiques de son entourage de l'encre de Chine dans des pâtes d'alite. Et il a vu que ça ne marchait pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, même un apprenti étudiant ou un apprenti laborantin aurait vu la supercherie. Or, ce spécimen a été montré pendant 2 ans. Donc, c'est que la supercherie a eu lieu très tard et qu'elle coïncidait avec la visite d'un ennemi de Camoir, qui était un professeur américain qui s'appelle Noble, pas Nobel, enfin, comme Noble en français, et qui n'avait, avec la complicité d'un professeur de l'université de Vienne qui s'appelait Abel, Otenio Abel, la volonté, lui, de détruire non seulement Kremlin, mais comme on le disait, le BVA qui était son laboratoire, et avec un fond d'antisémitisme très fort.
Et de jalousie.
Ça, cette partie, c'est pas Koestler qui l'a mise à jour, c'est Klaus Tachevert qui a fait plusieurs ouvrages non traduits en français sur l'université de Vienne et sur les coteries antisémites qu'elle contenait.
C'est des travaux récents,
extrêmement intéressants.
Il y avait beaucoup de jalousie.
Alors en plus, il y avait la jalousie, et puis il y avait des phénomènes beaucoup plus terribles. Donc, alors aujourd'hui, on a probablement le nom du laborantin qui a injecté l'encre peu avant la visite du professeur Noble, qui, par 2 articles retentissants de Nature, la revue scientifique, a dénoncé Camoir, ce qui a été une des causes, à mon avis, de son suicide. Alors, ce détour par la biologie, bon, outre qu'il est assez intéressant et amusant, est indispensable pour aborder le grand livre des coïncidences.
En passant par la guerre de 14-18, puisqu'il a, vous le racontez très bien, examiné les courriers envoyés par des prisonniers italiens, et j'aimerais, Hervé Lavienne, que vous nous expliquiez en quoi ça a joué dans ce projet comprendre les séries.
Exactement, c'est l'illumination de la guerre. Donc Camoir a été, il avait, au moment où la guerre éclate, il avait 44 ans, non, 34 ans. Donc, il n'a pas été mis sur le front, mais en fonction de ses talents, il a été réquisitionné pour analyser et censurer le courrier des prisonniers de guerre italiens. Et donc, il s'est trouvé avec des milliers de lettres émanant de prisonniers italiens, qui étaient formés une population à peu près parfaite, parce que c'était des gens qui avaient tous été déplacés de leur milieu naturel, hein, puisque c'est le moment où Camoir va passer de la biologie au social. Donc, ils avaient été tous en même temps déplacés, ils affrontaient des défis qui étaient d'apprendre la langue allemande, d'obéir aux ordres, etc. Et donc, à travers l'analyse de leur courrier, Camoir s'est dit « la biologie, c'est bien, la sociologie, c'est mieux ».
Et les deux sont associés. En tout cas, on peut les associer. On peut utiliser les résultats de la biologie pour comprendre
voilà.
La société.
Alors, ça peut être, c'est très contestable, mais le darwinisme l'a fait, hein. Le darwinisme social, vous savez ce que ça a donné. Et donc, Camoir l'a fait dans une optique lamarckienne, c'est-à-dire une optique généreuse de progrès, en disant que, en changeant le milieu des gens, on pouvait améliorer leurs conditions d'existence et que ces progrès se transmettraient. Oui, c'est un lamarckisme non génétique, mais c'est pour lui, ça relevait du même phénomène et que se transmettrait aux générations futures.
C'est pour ça qu'il était bien vu par les soviétiques.
Alors c'est pour ça, oui, c'est pas très loin de l'homme nouveau léniniste. Hein. On change les caractéristiques et le mode de vie des gens.
On améliore les conditions de vie.
Voilà, et forcément, ils deviennent des gens heureux qui, disait Marx, travaillent le jour et font de la critique littéraire le soir. Voilà. Donc c'est l'homme nouveau. Donc effectivement, après sa chute, parce que Camoir a été conspué très tôt par ses collègues, la jeune Union soviétique l'a invité à créer un laboratoire de biologie à Moscou. Il a longtemps hésité parce qu'il y avait, pour se renflouer, il avait aussi la possibilité de donner des conférences aux États-Unis qui étaient mieux payées que les soviétiques. Et puis les soviétiques, ils aimaient pas trop. Ils se disaient bon, ces gens-là m'ont sens, mais ce qu'il avait pu percevoir de la réalité soviétique fait qu'il a hésité et finalement dit non aux offres faites par les soviétiques. Donc, pour en revenir à notre propos,
les prisonniers italiens,
Kammerer à son illumination, on va appliquer ce qu'on sait de la marque et de l'hérédité des caractères acquis à l'homme dans un but de perfectionnement et d'amendement de l'espèce humaine, un amendement généreux, pacifiste, basé sur des théories socialistes assez courantes. Il n'était pas le seul, hein, il y a tout un courant à Vienne à cette époque-là qui prônait l'amélioration des conditions de vie, la lutte contre les fléaux qui étaient l'alcoolisme, avec cette idée que ces bienfaits se transmettraient aux générations suivantes. Donc il s'engage dans cette voie. Il était franc-maçon aussi, à une époque où la franc-maçonnerie en Autriche était plus ou moins interdite. Et parallèlement, il commence son livre sur les coïncidences, mais on a souvent l'habitude de présenter Kammerer comme un biologiste plus ou moins farfelu, qui avait pour marotte encore plus farfelu l'étude des coïncidences. En fait, tout ça pour lui ne fait qu'un. C'est-à-dire que l'étude des coïncidences, pour Kammerer, c'est pas un aboutissement, c'est une porte d'entrée sur tout ce qui est répétition et ressemblance dans l'univers. Et c'est la théorie de la sérialité qu'il
a élaboré.
En fait,
il passe des événements de la vie quotidienne, lesquels on observe des coïncidences, jusqu'à des conceptions quasi-cosmologiques.
Exactement.
Sur le rôle du hasard ou des séries causales qui se cachent derrière lui.
Ou la contestation de la causalité comme... Parce que c'est ça, la sérialité. C'est la contestation de la causalité comme unique moteur du monde. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Alors, les coïncidences, donc, il en énumère une centaine, qui sont souvent très amusantes dans son livre.
Pas très convaincantes. On donnera des exemples tout à l'heure.
Hein. Certaines sont convaincantes, d'autres moins. En fait, il les explique, et puis en savant, parce qu'on l'a surnommé le Linné des coïncidences, il les classait. Donc vous avez trois types de classement des coïncidences. La première série, il les classe tout simplement par coïncidence sur des chiffres, sur des personnes, sur des événements. Ensuite, il y a une deuxième sorte de classement, qui est une typologie, où il dit, c'est les coïncidences que je viens d'écrire, elles se classent aussi dans des catégories telles que j'ai pensé à quelqu'un et le voilà qui se matérialise devant moi, ou des trains qui se croisent au bon moment, enfin toute une typologie. Et puis ensuite, alors là c'est le morceau difficile du livre, une morphologie des coïncidences, où il les classe là par ordre de complexité croissante.
Avec 20 types.
Alors 20 types c'est la typologie, pour la morphologie il y a 17 genres de coïncidences, donc certains sont très facilement compréhensibles, c'est les coïncidences d'ordre 1, 2, 3, c'est-à-dire les séries qui concernent une répétition, deux répétitions, trois répétitions sur un court laps de temps, il en donne plein d'exemples, jusqu'à des choses absolument incompréhensibles, et ça donne lieu à un tableau assez amusant, page 218, où il dresse effectivement la liste, la morphologie de toutes ces coïncidences.
Mais vous m'accorderez, Hervé Lavelle, que ce tableau n'est pas clair du tout.
Il est totalement incompréhensible.
Il est là pour nous aider à comprendre, mais pour ce qui me concerne, il a fait l'inverse.
Oui, alors en plus, je vous ai épargné, j'épargne au lecteur, les schémas, diagrammes, graphiques que Kammerer livre à l'appui de ces classements et qui ne font plutôt qui obscurcissent le propos plutôt qu'ils ne l'éclairent. Mais il y a quand même dans la morphologie deux trois choses qu'on comprend assez bien dans la complexité croissante des schèmes de coïncidences.
Voilà. Je peux donner deux exemples de coïncidences.
Ouais. Il faut les citer.
À propos des chiffres, pour qu'on voit de quoi on parle finalement. Voilà ce qu'il écrit, c'est la première coïncidence qu'il cite dans le premier chapitre du livre. Le 25 juin 1912, j'ai assisté à un concert à la Beethoven-Saal de Vienne et mon fauteuil se trouvait au 18e rang. Le lendemain, je me suis rendu à la grande Musikverein-Saal et j'ai de nouveau occupé un siège au 18e rang.
Voilà.
On se dit, mais il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard.
C'est une coïncidence d'ordre 1. Alors lisez la suivante.
Le 4 novembre 1910, mon beau-frère avait assisté à un concert à la Bösendorfer Saal.
Bösendorfer Saal, oui.
À Vienne. Il avait le fauteuil numéro 9 et son billet de vestiaire portait également le numéro 9.
Voilà. Donc là, ordre 2, puisque la coïncidence porte à la fois sur le rang et sur le numéro de billet de vestiaire qui, dans, à cette époque, n'étaient pas les mêmes.
C'est sûr. Parce qu'on peut voter une cause commune.
Sûr, il le dit d'ailleurs. Oui. Il n'est pas dans l'habitude de l'administration de donner des numéros égaux aux numéros de siège et de vestiaire.
Mais vous m'accorderez, Hervé Lavagne, que plus on cherche de coïncidences, plus on en trouve.
Oui, alors ça c'est effectivement une objection qu'on peut faire à Camoeur, mais qu'il réfute d'une façon magnifique en disant « Peu importe dans quel état d'esprit on est, si on les voit, c'est qu'elles existent, et ça suffit à les établir. » On lui a aussi reproché de dire, mais il vivait à Vienne à une époque où tout était répétition. Les motifs de l'art viennois, les motifs des Wiener Werktateux, vous savez, les ateliers viennois. Et en plus, un microcosme viennois où on croisait Freud au coin de la rue, et donc c'est pas étonnant que dans cet univers fermé, les coïncidences se multipliaient, et Camoeur, de façon très, très lucide, dit c'est vrai, et il élargit même le propos, il a une phrase intéressante où il dit à un moment, on célèbre en général l'infinie bigarrure du monde, mais en fait, le monde est fait d'un nombre d'éléments limités. Donc, ce qui serait surprenant, c'est de ne pas voir de coïncidence intervenir parmi un nombre d'événements, de faits, de choses qui est elle-même limitée. Théorie d'ailleurs qui est extrêmement intéressante et qui a inspiré par exemple un poète, là on n'est plus dans la science, mais Camoeur peut-être pas non plus vraiment, comme Roger Caillois qui cherchait à déterminer à travers les règnes végétaux, animaux et minéraux, des répétitions, des ressemblances, une sorte de grammaire du monde. Caillois n'a jamais lu Camoeur, mais ses propos auraient pu être signés par lui. Ouais.
Hervé Lavergne, on a peu parlé de sa vie amoureuse, mais elle est compliquée elle aussi. Il y a des répétitions d'ailleurs. Est-ce qu'il a vécu dans son existence?
Avant sa vie amoureuse, j'aimerais, parce qu'on a beaucoup parlé de sa carrière de biologiste et de son lamarckisme, on vient de commencer de parler des coïncidences, mais l'un et l'autre c'est la même chose. C'est-à-dire le lamarckisme, hérédité des caractères acquis, c'est-à-dire réplication des caractères acquis dans le temps, c'est une série temporelle. Ça relève de la sérialité. Comme une personne que vous croisez dans l'autobus que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, etc. Ça fait partie de cet ensemble de répétitions, de ressemblances.
Vous voulez dire que l'idée même de loi des séries peut être déduite du lamarckisme?
Voilà, le lamarckisme fait partie d'une loi des séries, puisque la réplication des caractères acquis d'une génération à l'autre, c'est un phénomène de répétition qui est au cœur de la sérialité. Hein, rappelons-nous, la sérialité, c'est à la fois la répétition et la ressemblance. On les perçoit de façon très simple et courante, pour ça que Camoeur, pour attirer ses lecteurs à utiliser les coïncidences, mais ça ne s'arrête pas là. Derrière, il y a tout ce qui est ressemblance et répétition dans le monde, avec un exposé sur toutes les sciences, etc., etc. Donc effectivement, le lamarckisme est soluble dans la sérialité, comme d'ailleurs toutes les sciences. Camoeur était ce qu'on appelle un moniste, et il croyait que le monde était régi par très peu de lois. Pour lui, il y en avait deux, la loi de Newton, et d'ailleurs il cite tout début de son livre, la fameuse loi, vous savez, sur un corps...
principe d'inertie. Voilà. Un corps qui n'est soumis à aucune force, voilà. Un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Le principe d'inertie, qui est l'un des trois principes de la mécanique.
Exactement, il le cite au début de son livre, et ce qui est amusant, c'est que Lamarck, dans sa zoologie, son grand livre sur la zoologie, commence aussi par citer ce principe. Hein, donc il se met en disciple lamarckien, mais pour lui, Newton n'explique pas tout. La seconde loi, vous imaginez bien, c'est la sérialité, c'est-à-dire une façon... autant la loi Newton, ça... concerne tous les corps sans distinction, c'est une loi générale, autant la sérialité, c'est une loi sélective qui apparaît des choses en apparence éloignées. C'est ça le cœur de la sérialité.
C'est-à-dire que tout est relié, finalement.
Tout est relié, alors, dans les temps moyenâgeux ou plus anciens, on avait des cosmogonies pour expliquer ça. Camoeur, son origine, c'est qu'il explique tout avec il prétend tout expliquer avec la physique moderne, et sur le fait que ces phénomènes sériels nous échappe parce que nous sommes rompus à la causalité. Chaque fois que nous voyons quelque chose, nous avons une tentation d'appliquer la loi des causes et des effets. Or, il y a plein de choses, selon lui, qui ne sont pas perceptibles, sauf peut-être dans des états de conscience transformés, comme celui du rêve. Il a des analyses très intéressantes sur le rêve, où on voit des choses très hétéroclites se rapprocher, mais qui paraissent normales au cerveau rêvant. Puis quand on se réveille, on se dit c'était absurde. Et là, c'est pareil. Koestler a d'ailleurs une image très, très saisissante. Il dit, imaginez des crêtes de vagues qui moutonnent à l'infini sur la mer. Vous avez l'impression que ces crêtes sont totalement indépendantes, dues au hasard, etc. C'est parce que vous ne voyez pas la vague de fond qui les porte. Et donc c'est ça la sérialité, c'est cette capacité de l'univers à s'unifier en rapprochant des choses éloignées. Il y a un exemple très amusant, c'est l'exemple des chapeaux, et je pense que c'est indispensable de le citer rapidement. C'est un jour de vent, les messieurs portent des chapeaux et les chapeaux s'envolent. Un observateur superficiel, que vous n'êtes pas, dirait « c'est le vent qui fait s'envoler les chapeaux ». Kammerer dit « peut-être, mais pas forcément ». Il y a des jours de grand vent où les messieurs gardent leurs chapeaux sur leur tête, et inversement, des jours où il n'y a pas un poil de vent, et où il y a des chapeaux qui tombent, qui s'envolent, etc. Et donc il dit « voilà, qu'est-ce qui peut faire tomber un chapeau dans une ville ?» Le fait que vous loupiez une marche, que vous trébuchiez, que vous soyez pressé, que c'est le vent de votre course qui fait tomber votre chapeau, etc., etc. Donc, chaque envol de chapeau peut avoir une cause particulière qui explique l'envol du chapeau. Et donc, la sérialité, c'est le concours simultané de ces causes particulières.
Autrement dit, au lieu de dire que la répétition est liée à la répétition de la cause qui produit les effets qui se répètent, il faut imaginer que chaque effet a une cause à lui.
Chaque effet a une cause à lui, et c'est la conjonction en un même lieu, à un même moment, de tous ces effets, tous ces chapeaux qui s'envolent. Là, c'est un phénomène sériel que vous pourrez observer s'il n'y a pas de vent ce jour-là. Bon, aujourd'hui, on ne porte plus de chapeaux, donc c'est plus compliqué à justifier Kammerer là-dessus. Mais profondément, c'est ça. Alors, personnellement, là, je défends mon client. Personnellement, tout ça me fascine, j'y crois pas vraiment, mais il faut quand même reconnaître que ça colore nos existences d'une dimension assez poétique. Hein, l'idée qu'il y a une loi générale qui rapproche les choses dans l'univers, que nous ne percevons pas parce que nous sommes conditionnés par la causalité, et qu'on arrive à voir, lorsqu'on s'appelle Paume Kammerer, lorsqu'on rêve, ou lorsqu'on fait partie, ou lorsqu'on est un enfant, par exemple. Les enfants ont cette capacité à associer naturellement des choses très hétéroclites. Donc Kammerer se penche aussi sur des phénomènes psychologiques, de phénomènes cognitifs qui sont intéressants. Je ne pense pas qu'il ait ni réussi à prouver la marque, mais il a sans doute fait des... Il a sans doute mis le doigt sur l'épigénétique. Je ne crois pas à la sérialité, mais j'aimerais bien y croire. Quoi. Voilà.
Mais Hervé Laverne, il y a quand même un problème avec le mot hasard. C'est-à-dire qu'à la fois, il désigne ce qui n'a pas de cause, et il désigne aussi ce qui a une cause inconnue.
Voilà, exactement.
Et donc, le hasard est à la fois synonyme de hasard pur, disons, mais aussi synonyme de destin.
Oui, alors Kammerer, sur le hasard, il est assez catégorique, d'ailleurs, comme sur beaucoup de choses. Bien que ce soit pas quelqu'un d'intransigeant, il est souvent très modeste, et il fait beaucoup d'hypothèses sur sa théorie, en espérant que le futur lui donnera raison. Mais effectivement, sur le hasard, il dit que ça n'explique rien. Dire qu'un phénomène, que des coïncidences sont dues au hasard, ou ne rien dire, c'est la même chose pour lui. C'est pour ça qu'il refuse de s'arrêter à l'explication par le hasard, et qu'il a creusé pour trouver cette loi. Alors effectivement, le hasard, pour beaucoup de gens, n'existe pas. Alors vous m'en parliez cet été. Il y a ces scientifiques qui disent que deux phénomènes, c'est le croisement de deux courbes déterministes.
C'est Cournot qui disait ça.
Voilà.
Auguste Cournot qui disait que le hasard, c'est le croisement de deux séries causales indépendantes.
Voilà, deux séries causales.
Donc, par exemple, vous marchez dans la rue, vous allez acheter votre pain, vous êtes déterminé à le faire. Il y a du vent qui fait tomber une tuile du toit et la tuile vous tombe sur la tête et vous direz que c'est du hasard.
Surtout
mais si vous n'aviez pas été sous la tuile, vous n'auriez rien dit.
Voilà, et si votre chapeau s'est envolé, vous avez mal. Voilà. Et puis il y a aussi le démon de la place, vous savez. La place pensait que un démon pourrait calculer toutes les forces qui s'exercent sur toutes les particules de l'univers et donc prévoir l'avenir.
Bon, la physique quantique est venue compliquer tout ça, mais Cameron oui, voilà, n'en parle pas.
Alors Cameron quand même arrive à un moment scientifique où beaucoup de gens, Einstein, mais vous les connaissez mieux que moi, et d'autres commencent à se rendre compte que la physique newtonienne est impuissante à expliquer le monde. Oui, il baigne là-dedans.
Oui, d'autant plus que 1919, c'est la date de publication du livre dont on parle, de Paul Kammerer, c'est l'année où on démontre, grâce à une éclipse totale du Soleil, que la lumière est déviée par la matière.
Voilà.
Donc on a l'impression que le monde est en train de changer, que les lois physiques qui unissent le temps, l'espace, la matière, l'énergie, sont différentes de celles...
Kammerer baigne là-dedans. Mmh. Lui, il a cherché une voie qu'il a appelée la sérialité, qui est une voie sans issue, mais qui est drôle, poétique, amusante.
Est-ce qu'on pourrait dire, en reprenant un vocabulaire, disons, plus récent, qu'il est à la recherche d'une théorie du tout?
Alors oui, c'était un moniste. Alors le monisme, c'est une doctrine qui a subi au cours des siècles plein de variations. Pour lui, c'était un moniste, en ce sens qu'il pensait à l'unité de la matière et de l'esprit, et que la sérialité visait à la reconstitution du monde dans son unité originelle. C'était à l'époque quelque chose... Il y a un grand poème d'Edgar Poe, par exemple, qui s'appelle Eureka, où il tente de démontrer avec des vers, lui, que tout remonte à l'unité. Et la sérialité, c'est ça. C'est de dire, les coïncidences, quand vous voyez deux coïncidences, vous voyez deux fragments du réel en train de s'assembler pour retrouver le grand tout ou le grand un. UN. Il y a deux moteurs pour la sérialité, donc il y a d'abord ce qu'on appelle la loi Newton, qui pour lui existe, et les deux moteurs de la sérialité, c'est l'hypothèse, parce qu'il était modeste et qu'il ne donne ça que comme hypothèse, l'hypothèse de l'imitation et l'hypothèse de l'attraction, qui sont comme deux moteurs qui vont assembler donc des choses très éloignées, hein. N'oubliez pas, la sérialité, c'est une loi sélective, et à force de se rassembler, elles vont se ressembler, et donc se fondre. L'histoire des salamandres et de la pigmentation des salamandres qui se confond avec leur substrat, pour Kammerer, c'est un exemple de cet assemblage qui fonctionne à la fois par attraction et par imitation, pour retrouver l'unité originelle.
Hervé Lavergne, est-ce qu'on sait qui, à l'époque, donc en 1919 et dans les années qui suivent, qui a lu ce livre et quel effet il a produit sur les grands esprits de l'époque?
Alors d'abord, il a coûté à Kammerer sa chaire à l'université de Vienne, parce que...
C'était considéré comme un livre non scientifique.
C'est considéré comme un... Et notamment de la part de Bateson, d'Antonio Abel, tous ses ennemis. Ils ont pris ça pour une provocation, que l'année même où Kammerer sollicitait une chaire qu'on lui avait longtemps refusée à l'université de Vienne, il publiait simultanément son dernier traité sur le crapaud accoucheur, hein, donc la théorie du lamarckisme, et le grand traité des coïncidences. C'était vraiment donner des verges pour se faire battre, et il a été exclu tout de suite, et ça a été, à partir de 1919, le début de sa chute morale. Et
mais ça, c'était avant l'accusation de fraude.
Voilà, mais ça a démarré en 1919. Mmh. Il publie ces deux livres qui, pour lui, étaient le sommet de sa carrière, la preuve du lamarckisme par le crapaud accoucheur, et la preuve par la sérialité de l'unité en train de se reconstituer du monde. Donc il est viré de l'université, et à partir de là, tout va aller de mal en pis pour lui, y compris cette vie amoureuse qu'on a différée, mais dont il faut dire deux mots, parce que on peut pas comprendre le personnage. D'abord, si on comprend pas qu'il baignait aussi, c'est un musicien, c'est un artiste, et il était dans une Vienne où, extraordinairement bouillonnante en termes artistiques, et il participait. Il a composé des leaders, par exemple, que récemment, je crois, on a enregistré en Autriche.
Il aurait pu être un musicien professionnel.
Ouais, mais il a longtemps hésité entre une carrière de musicien. Quand il voyait l'université de Vienne qui sortait les bestioles du formol pour les ausculter, alors que lui, amoureux de la vie, voulait expliquer la vie par la vie même, enfin, la vie de la vie, c'est ça qui l'intéressait, comme son mentor Psi Bram, il a failli tout laisser tomber pour poursuivre une carrière de musicien. C'était un admirateur éperdu de Gustav Mahler, par exemple.
Et de sa femme.
Oui, alors quand Mahler est mort, un peu cocufié par Alma, même un peu beaucoup, il s'est adressé à Alma, et qui n'avait plus le moyen d'existence, et il l'a embauché dans son laboratoire. Il est devenu même son amant. Et ce qui est amusant, c'est qu'il lui a confié des travaux sur les capacités mnésiques des mantes religieuses. Alors c'est amusant quand on connaît la réputation de croqueuse d'hommes d'Alma Mahler, mais les mantes religieuses... Bon,
c'est pas un hasard.
C'est pas un hasard. Donc ça s'est très mal terminé entre eux. L'affaire n'a pas duré très longtemps. Dans son journal, Alma Mahler est...
Très dur.
Extrêmement désagréable contre son amant, qui, il faut dire, multipliait les frasques, les foucades, les prosternations.
Mais il y a une loi des séries dans la vie amoureuse de Paul Kammerer.
Il
s'est marié deux fois avec la même femme.
Il s'est marié deux fois avec la même femme, la pauvre Félicitas, la mal nommée, qui, chaque fois qu'il revenait sur le paillasson à domicile, l'a toujours accueilli. Et le comble, ça a été les sœurs Wiesenthal, qui étaient des... Greta Wiesenthal, son dernier chagrin amoureux, qui a sans doute joué un rôle dans son suicide, mais avant Greta, il a été amoureux des cinq sœurs Wiesenthal. Donc si c'est pas de la sérialité, qu'est-ce que c'est?
Alors, moi j'ai été étonné en lisant votre biographie de Paul Kammerer, il y a quand même des gens très importants de l'époque qui ont lu ce livre et qui l'ont commenté. Oui. Notamment, on a parlé d'Einstein.
Alors,
qui jugeait ce livre
mots.
Plein d'esprit, tout sauf absurde. Mmh. Un peu plus tard, il dira « Dieu ne joue pas au dé
oui, bah oui,
à propos de la physique quantique. Voilà. Mais vous citez aussi Freud qui lit le livre dès sa sortie en 1919, au moment où il écrit lui-même un essai qui s'intitule « L'inquiétante étrangeté ».
Oui, alors dans « L'inquiétante étrangeté », il cite Kammerer et il trouve ça intéressant.
Il dit « Un chercheur naturaliste qui est aussi un homme d'esprit a récemment tenté de soumettre des événements de ce genre à des lois précises. Ce qui devrait avoir pour effet de lever l'impression d'inquiétante étrangeté.
Voilà.
Je ne me hasarderai pas à décider s'il a réussi.
Non, il reste prudent. Il faut dire que Kammerer et Freud se sont pas bien connus. Kammerer a totalement ignoré la psychanalyse, mais dans son livre, il rencontre Freud sur les petits événements de la vie quotidienne. Vous savez que Freud a écrit un livre qui s'appelle La psychopathologie de la vie quotidienne, où il cite toutes sortes d'événements que lui explique par des manifestations de l'inconscient. Alors, par exemple, prenons le cas du lapsus. Quand vous prenez un mot pour un autre, c'est votre inconscient qui cherche à dissimuler ou à... Bon. Pour Kammerer, il traite du lapsus abondamment, mais pour lui, c'est un effet d'imitation et d'attraction. Hein. Ça relève de la sérialité. Là où Freud se penche sur les tréfonds de l'âme humaine, Kammerer, lui, s'oriente vers sa cosmogonie pour expliquer de toutes petites choses comme le lapsus. Moi non plus, je ne me prononcerai pas là-dessus.
Mais comment vous expliquez, Hervé Lavergne, que ce livre... qui a eu, à son époque en tout cas, un certain effet, n'ait pas été traduit et soit tombé dans les oubliettes?
Alors, d'abord parce que Kammerer a longtemps eu la réputation d'être un truqueur, jusqu'à ce que Kössler, courageusement, le réhabilite en 71, Kammerer était considéré comme un charlatan qui avait trafiqué ses expériences de biologiste pour faire croire à l'hérédité des caractères cris. Donc il avait très mauvaise réputation, et c'était tout à l'honneur de Kössler de l'avoir réhabilité sur ce plan-là, de dire non, Kammerer n'a pas triché sur ses expériences. Donc on l'a découvert tardivement. On l'a redécouvert tardivement, mais effectivement, alors si le livre n'a pas été traduit, c'est qu'il a, disons-le, un peu incompréhensible dans de nombreuses parties. Pour ça que la traduction que nous donnons avec Raymond Clarinard, pas une traduction exhaustive, parce que ça aurait découragé le lecteur de la meilleure volonté
moi,
possible.
Moi, je dirais que c'est un livre dans lequel l'abondance de la mitraille ne compense pas l'imprécision du tir.
Et donc, on s'est limité quand même aux exemples, parce qu'ils sont amusants, les coïncidences, ça fascine tout le monde, et on a essayé de donner quelques aperçus sur la loi de sérialité, notamment, et la façon dont elle fonctionne, notamment l'imitation et l'attraction au service de la reconstitution du grand 1, mais encore une fois, je ne me prononcerai pas là-dessus. Lire Kammerer, c'est prendre du plaisir, parce que ces coïncidences sont amusantes. Il a, bien qu'il n'ait pas réussi son œuvre, son grand œuvre de Lamarckisme et de la sérialité, il a des intuitions fulgurantes sur toutes sortes de sujets. Donc c'est un peu des éclairs dans la nuit, d'une page à l'autre. C'est extrêmement intéressant sur la convergence, les phénomènes de convergence dans les sciences, sur l'analyse qui fait du rêve, très différente de celle du Freud. Donc c'est quelqu'un d'assez passionnant, qui a raté. Mais est-ce que c'est, vous qui êtes un scientifique, est-ce que c'est infamant de chercher et de ne pas trouver ?
Ah non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce livre, en effet... moi, j'ai pas tout lu, hein, parce que c'est compliqué, mais...
Ça se complique à la fin.
Voilà, ça part un peu dans toutes les directions, et arrive un moment où on perd le fil, en fait. Mmh. Parce que c'est exploratoire, on sait plus très bien ce qui relève de l'hypothèse, de la déduction.
Oui, alors on vous a épargné quand même pas mal de centaines de pages où il applique la sérialité à toutes les sciences de son époque avec des concepts qui sont aujourd'hui...
Si on l'appliquait par exemple à la cosmologie, parce qu'il parle de cosmologie.
Oui, il parle de cosmologie.
En 1919, l'univers est considéré comme stationnaire. On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Alors on ne sait même pas que l'univers a une histoire, en tout cas on ne l'a pas démontré. Qu'est-ce que veut dire la sérialité quand on l'applique à la cosmologie de cette époque ?
La sérialité... D'abord, la sérialité, Camus, enfin, un historique au départ, c'était depuis les Grecs l'étude des périodes.
Les cycles.
La troisième vague, ou la septième vague, meurtrière, etc. Donc il se situe quand même, c'est un bon épistémologue, il a extrêmement lu tous les scientifiques qui l'ont précédé, ou les non-scientifiques, comme les Paracels, etc. Il a voulu effectivement élaborer une cosmologie moderne, mais sans quitter le domaine de la physique newtonienne. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il ne fait pas appel. Jung s'est beaucoup inspiré de Camus avec sa synchronicité.
Il l'avait lu ?
Il a lu Camus, il l'a réfuté, mais il lui a appris pas mal de choses. Et je trouve, moi, Jung, j'ai lu le livre de Jung, qui est aussi amusant, est beaucoup moins rigoureux dans sa démarche. Je mets des guillemets à rigoureux, parce qu'il lui hésite pas pour sa synchronicité, à invoquer la transe, des états de conscience transformés, la divination. Il dit même, Jung, froidement à un moment, l'astrologie est en train de devenir une science. Il faut quand même s'accrocher. Jamais vous ne lirez dans Camus des propos aussi péremptoires. Camus reste un physicien, un biologiste, quelqu'un qui essaye d'expliquer le monde, par des moyens mécaniques et mécanistes.
Il a une conclusion que je vais lire, elle fait trois lignes, enfin la toute dernière phrase du livre. Tous les êtres sont sujets au retour et portent en leur sein le retour. La loi de la série est le cordon ombilical qui les relie aux entrailles de l'univers qui leur ont donné le jour.
Voilà.
Tout est lié.
Pierre Dadacour a dit, tout est dans tout et réciproquement. Mais Camus termine...
Et le reste est dans les gueules.
Camus termine effectivement sur une note un peu lyrique, mais qui témoigne de son monisme, c'est-à-dire qu'effectivement, tout doit s'accomplir dans le grand tout et le moteur, c'est la sérialité.
Hervé Lavergne, vous avez donc... publié en français pour la première fois ce livre en avril 2024. Quels effets ce livre aujourd'hui produit-il ? Est-ce qu'on le lit comme un livre daté, raté, ou est-ce que il rentre en résonance avec des choses qu'on a comprises depuis ?
Il faudrait demander au lecteur, vous parlez de la loi des séries ou du...
Oui.
Je ne sais pas, j'ai pas eu à part des amis qui m'ont dit qu'ils avaient découvert Camus et que ça les avait amusés, parce qu'effectivement tout le monde est témoin de coïncidences et tout le monde parfois devant certaines coïncidences dit c'est pas possible que ce soit du hasard. Donc ça, en chacun d'entre nous, les hypothèses de Camus éveillent des questions, etc. Non, je pense pas que ça ait transformé la vie des Français, pas encore, mais ce livre pourrait les inviter regarder...
Dans l'actualité, on parle souvent de la loi des séries.
Ah ben oui, mais Camus, d'ailleurs, il commence comme ça. Dans ses premiers exemples, il parle de déraillement de train, il parle d'incendies à répétition dans certaines villes. Pour lui, la loi des séries, c'est aussi sous l'acception journalistique.
Est-ce que c'est lui qui a inventé l'expression ?
Oui, mais Der Gesetz der Serie, en allemand, ou Das Gesetz, je ne sais plus, c'est donc la loi des séries. Aujourd'hui, on l'utilise de façon plus journalistique pour montrer la persistance de phénomènes, ou la répétition de phénomènes en général désagréables. Crash aérien, etc. On dit c'est la loi des séries. Bon. Lui, il l'entendait pas comme ça. La loi des séries, c'était vraiment la sérialité, c'est-à-dire ce principe qui gouverne le monde, qui est caché depuis l'origine des temps, et que lui, Paul Camus, prétendait, à ses risques et périls, parce qu'il a quand même pris des risques professionnels importants, prétendait dévoiler au monde, mais toujours avec des méthodes assez rationnelles, sans jamais céder au mysticisme, ni au... ni au, comment dit-on, au, à la superstition. Lui, c'est, ça reste un newtonien, finalement, et c'est l'originalité de son livre, c'est d'expliquer finalement le monde par ce qui reste de la mécanique newtonienne, avec l'adjonction de la sérialité.
Il ne renonce pas à la causalité, simplement il invite à la repenser.
Exactement. Et pour lui, il y a deux lois dans le monde. Il y a la causalité et la-causalité. La causalité, que je l'ai montré avec les chapeaux, etc. C'est, enfin, que je l'ai montré, je me suis fait l'interprète de Kammerer. La causalité, c'est le deuxième moteur qui explique le monde. Alors voilà, donc, en conclusion, ce qu'il faut, c'est prendre ça avec amusement.
Moi, je dirais...
Poésie, parce que c'est parfois très poétique.
Oui, c'est poétique, c'est même... charmant parfois.
Ouais, c'est, ça nous replonge dans la Vienne de Stefan Zweig, mais par ses marges.
On sent une sorte d'ébullition intellectuelle.
Ah oui, non,
c'était. Et comme s'il voulait prendre à bras le corps, si j'ose dire, la complexité.
Exactement. Et puis il évoque la vie intellectuelle de l'époque. Une des premières coïncidences, c'est il va écouter chez son ami Franz Schreker, qu'on redécouvre, c'est un grand compositeur, son opéra Les Stigmatisés, dont le personnage principal s'appelle Carlotta. Et au retour, il achète des chocolats dans un magasin qui s'appelle Chez Carlotta. Voilà. Voilà la sérialité à l'homme, mais en même il a évoqué la création des Stigmatisés de Franz Schreker. Donc, on est replongé à la fois dans cette Vienne bouillonnante où on parle de.
Parce
pas
qu'en fait,
de Schreker, de Berg, de, oui, de tout ça.
Il raconte sa vie, en fait.
Il raconte
c'est
sa
comme
vie.
Un journal, presque.
Il raconte sa vie, il connaissait tout le monde, c'était un membre de l'intelligentsia viennoise. Et en même temps, il nous ouvre des perspectives qui méritent d'être regardées avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Mais voilà, moi, les gens qui ont lu le livre m'ont dit qu'ils y avaient pris plaisir. Comme vous, ils se sont dit, ça devient un peu. Ça devient un peu ardu à la fin.
Non, on se dit parfois il charrie. Mais vous qui l'avez traduit, est-ce que c'est facile à traduire ou est-ce que...
Non, c'est très compliqué à traduire parce que il s'exprime. Là, j'avais noté une phrase de Roger Caillois qui explique la même chose, qui n'a pas lu Kammerer, mais là où Caillois s'exprime dans une langue poétique, dans du bon français, Kammerer, c'est un. Excusez-moi pour vous qui êtes scientifique. Il manipule un langage scientifique lourd, quoi. Donc c'est un peu trapu à traduire, oui. Il se soucie pas beaucoup d'effets de style.
C'est pour ça que vous êtes mis à deux.
Voilà, on s'est mis à deux et on a failli renoncer plusieurs fois parce qu'on s'est dit ce type est fou, mais on peut lire la phrase de Caillois que j'ai lue dans Le Fleuve Alphée que Kammerer aurait pu signer. Chaque convergence inattendue, chaque duplication d'un même phénomène dans des règnes éloignés, avertit de la persistance probable d'une propriété clandestine dissimulée sous une pluralité de manifestations disparates. C'est Kammerer aurait pu signer cette définition de la sérialité. Pour Caillois, c'est sa conception du monde, hein, sa Weltanschauung, comme on dit en allemand. Caillois n'a jamais lu Kammerer, mais il était à une époque où on commençait à s'intéresser à ce genre de choses. On n'est pas loin non plus de la revue Planète, de toutes ces choses-là, et puis du surréalisme.
Hein, qu'est-ce qu'il pensait,
et du hasard objectif.
Paul Kammerer, qu'est-ce qu'il pensait du libre-arbitre?
Du
libre-arbitre. Est-ce qu'il croyait à cela, ou est-ce qu'il pensait qu'on était déterminé? Y compris dans nos actes.
J'ai pas souvenir qu'il parle.
Il n'en parle pas dans ce que j'ai lu.
Oui, non, j'ai pas souvenir qu'il parle de la liberté individuelle. Non, là, je ne peux pas vous répondre.
Vous citiez Pierre Dac tout à l'heure, Hervé Laverne. J'ai une petite citation de Pierre Dac sur le libre arbitre avec laquelle on va conclure. Le libre arbitre n'est pas à l'usage exclusif des arbitres de catch à 13 et de rugby à 4. Je vous remercie, Paul Laverne, d'être venu à la convention scientifique. Je recommande la lecture de votre livre, enfin du livre de Paul Kammerer que vous avez traduit.
Oui, c'est ce qu'on appelle un livre-vie, c'est-à-dire voilà. Il y a la vie de l'auteur qui est assez amusante.
Le grand livre des coïncidences.
Voilà.
C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Yaha Tali et à la réalisation Sam Bakiast que je remercie.